vous retrouve dans une heure pour d'autres informations.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, ce sont vos questions à la rédaction. Il vous manque des clés, des repères pour décrypter toute l'actualité que nous abordons dans nos différents journaux. Actualité que vous pouvez également consulter sur notre site RFI.fr. Eh bien, vous nous rejoignez, vous nous appelez et nous nous efforçons évidemment de répondre au plus grand nombre de questions chaque matin à 7h06, 10h10 heure de Paris, 8h10 temps universel. Un numéro de téléphone, évidemment, 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Vous nous rejoignez également sur les réseaux sociaux, sur la page officielle Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Et n'oubliez pas de nous indiquer un numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler, car le principe de cette émission, c'est de vous donner la parole, c'est de vous entendre évidemment en direct sur notre antenne. Dans 30 minutes, comme tous les jours, un débat et nous parlerons tout à l'heure des tensions entre les deux Congos. Le contentieux porte sur les expulsion massive de Congolais de Kinshasa. Et on pensait effectivement que les relations entre les deux voisins s'étaient apaisées ces dernières semaines. Eh bien, pas du tout. Depuis une dizaine de jours, quelques 10 000 ressortissants de la République démocratique du Congo vivant au Congo-Brazzaville sont rentrés au pays. Un retour en masse qui rappelle évidemment les événements d'avril et mai dernier. Durant ces deux mois, plus de 130 000 Congolais de Kinshasa ont traversé la frontière. Ils ont traversé le fleuve Congo pour retourner dans leur pays d'origine. Alors, comment expliquer cette nouvelle vague de départ, alors qu'il y a un peu plus d'un mois, les ministres de l'Intérieur des deux pays s'étaient retrouvés à Kinshasa et ils s'étaient engagés à désamorcer la crise. Vos réactions et vos témoignages, toujours au même numéro, 33 9 693 693 70. Vos questions à la rédaction, et nous avons encore des questions concernant la Coupe du Monde de football. Alejandro Valente, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous n'êtes pas prêt de partir en vacances, Alejandro, hein?
Bah non, j'ai compris qu'il faut pas que je parte.
Chef du service des sports des RFI, on a encore évidemment quelques auditeurs qui souhaitent revenir sur la Coupe du Monde de football. Oussine, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Djéné, dans la région de Mopti, au Mali. On vous écoute, quelles sont vos questions?
Bonjour, chers auditeurs. Alors, Juan, j'ai regardé la finale de la Coupe du Monde du Brésil 2014. Mais à la fin du match, j'ai été très surpris en voyant décerner le trophée du meilleur joueur à Lionel Messi. Alors, Juan, j'aimerais savoir exactement avec quels critères on attribue ce trophée à un joueur.
Vous n'êtes pas le seul aussi à être surpris, étonné, Alejandro Valente. C'est vrai que les passionnés de football, même des personnalités du football, s'étonnent de cette désignation. Au départ, on peut croire à une plaisanterie, mais pas du tout. Lionel Messi a été désigné meilleur joueur de la Coupe du Monde de football 2014. Pourquoi? Au nom de quoi?
Bah écoutez, Messi lui-même avait l'air un peu surpris quand il a reçu ce trophée. Personnellement, je pense que l'étonnement est un peu excessif, mais j'aurais pas sans doute donné ce trophée à Messi si ça avait dépendu de moi. Mais ça dépend pas de moi, c'est la commission technique de la FIFA qui décerne ce trophée.
Qui est composé d'un panel d'experts. Hein.
Voilà, c'est d'experts. En fait, c'est des entraîneurs, d'anciens entraîneurs qui se réunissent, qui sont présents jusqu'à la finale, donc pendant toute la durée de la Coupe du Monde, qui font des points presse assez souvent, et qui donc se concertent à la fin de la finale pour désigner les meilleurs joueurs. C'est pas le meilleur joueur de la finale, mais le meilleur joueur de l'ensemble de la compétition.
Bah, j'imagine que ce joueur doit forcément disputer la finale ou pas?
Pas forcément. D'ailleurs, on avait une liste des finalistes, et il y avait même James Rodriguez, le Colombien, qui avait été éliminé en quart de finale, ou bien Neymar, qui avait été blessé lors des quarts de finale également et qui n'avait pas pu disputer les deux derniers matchs du Brésil. Alors, parmi les personnalités qui intègrent cette commission, il y a Gérard Houllier, un ancien sélectionneur de l'équipe de France, je préfère que ce soit lui qui nous explique pourquoi ils ont voté Messi.
Et donc,
parce
vous
que
faites
lui,
son porte-parole.
Il a défendu cette
a
idée. Alors, il a dit qu'il faut pas regarder uniquement la deuxième mi-temps de la finale, mais l'ensemble de la compétition, qu'il estime que Messi a été plus que décisif lors des quatre premiers matchs, qu'en demi-finale, il marque le premier pénalty pour l'Argentine, qui ouvre la voie donc au succès de l'Argentine face aux Pays-Bas. Et enfin, qu'il était le capitaine d'une équipe très soudée, très collective, et qui avait l'air de bien fonctionner ensemble. Donc, tous ces critères ensemble font que la commission s'est prononcée à l'unanimité en faveur de Messi. On évoquait d'autres possibles noms. Alors, il y avait Robben, par exemple, le joueur hollandais. Il estime qu'il n'a pas été aussi décisif que Messi, qu'il n'a pas pesé ni en demi-finale ni en quart de finale, qu'il avait provoqué un pénalty en huitième de finale, mais que c'était tout, et que James Rodriguez, autre nom cité assez régulièrement, s'était arrêté beaucoup trop tôt dans la compétition, tout comme Neymar. Donc il estime que finalement le choix de Messi était plutôt évident, mais même si c'est ce genre de récompense sont toujours très subjectives. Donc,
oui. Et elles font à chaque fois l'objet de débats. Même le président Sepp Blatter, le président de la FIFA, bon, évidemment, il a été interrogé par les journalistes sur cette désignation. Oui, oui. Et lui-même s'est dit surpris. Il a d'abord, dans un premier temps, pour répondre à la question du journaliste, il dit « Dois-je être diplomate ou dire la vérité ?» Puis il a poursuivi en disant « Moi-même, j'ai été un peu surpris quand j'ai vu que Messi a été désigné meilleur joueur. »
Oui, mais à ce moment-là, il faudrait qu'il modifie un peu les critères ou la façon de désigner ces joueurs. Souvent, les entraîneurs ou les personnalités techniques ont tendance à élire les joueurs qu'ils aimeraient voir dans leur équipe plutôt que le joueur objectivement le plus influent dans une compétition. Il faudrait peut-être que des journalistes participent à cette élection plutôt que...
Et pourquoi pas Alejandro Valente,
notre
chef du service des sports ici à RFI. Dernière déclaration, celle de Maradona qui s'est indigné sur une chaîne de télévision dont il est consultant, la chaîne Telesur. Maradona qui est argentin comme Messi et qui dit « Mais Messi, moi je lui offrirais le ciel si c'était possible, mais c'est injuste de récompenser uniquement pour des raisons marketing quelqu'un qui ne le mérite pas. »
C'est une façon pour lui, comme fréquemment, de tacler la FIFA et de présenter finalement Messi comme victime de ce choix, dans la mesure où aujourd'hui il est critiqué alors qu'il a fait plutôt une bonne Coupe du Monde.
Allez, on repasse au standard, Alejandro Valente. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Vous nous appelez de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vous êtes à Douekoué. Nous vous écoutons.
Douekoué. Bien, merci Juan. Ben, moi, je suis un peu chargé de rage et d'inquiétude suite à mon constat que j'ai fait lors du mondial. Bien, je constate que le joueur colombien Zuniga, qui a été auteur d'une faute très grave sur Neymar, une faute préméditée, une faute volontaire lourde de conséquences, une faute qui a complètement changé le cours du mondial. Donc ce joueur Zuniga-là, il n'a pas été sanctionné ni par la BIT, ni par la FIFA. Ce qui m'amène à cette interrogation. Pourquoi est-ce que la FIFA a promptement sanctionné Luis Suarez qui a écouté de 9 matchs de suspension, alors que Zuniga n'a pas été inquiété? Donc je m'interroge, pourquoi ce deux poids deux mesures?
Deux poids deux mesures. En tout cas, en vous écoutant, Olivier, on voit bien que vous avez choisi votre camp. Alejandro Valente, c'est vrai que la star brésilienne, le joueur vedette de la Seleção, a été victime d'une fracture, d'une vertèbre, après effectivement un coup de genou donné par un joueur colombien, Juan Zuniga, et il n'a récolté qu'un carton jaune. Y a-t-il eu erreur d'arbitrage quand même?
Non, il n'y a pas erreur d'arbitrage. Disons que là, il y a un contact qui, bon, notre ami Olivier prétend qu'il était prémédité et volontaire. En fait, c'est un contact comme on en a régulièrement dans le football, qui a eu des conséquences importantes. Mais quand la FIFA examine après match et sur la base des images les comportements d'un joueur pour éventuellement le sanctionner, il faut que ce soit une faute d'anti-jeu caractérisé. Et dans le cas des Suarez, la morsure sur Chiellini a été considérée comme
telle. Là, c'était flagrant.
Même si elle n'a pas eu des conséquences graves pour Chiellini. Et puis, c'était un récidiviste, puisqu'il avait déjà procédé de cette manière dans d'autres occasions. Alors que le cas des Zuniga s'inscrit dans les déroulements d'un match. C'est un peu comme le coup de boule des Zidane, qui est considéré comme un geste exceptionnel et très grave dans la mesure où il va à l'encontre de toutes les notions de sportivité. Alors qu'un coup de genou dans le dos, dans le feu de l'action, n'est pas considéré comme tel. Ouais, la FIFA serait soumise en permanence à des requêtes de toute nature.
Et on rappelle que la FIFA peut sanctionner un joueur après match, même si l'arbitre...
Mais c'est très exceptionnel, c'est exceptionnel et il faut que ce soit un geste tout à fait hors du commun.
Allez, 33 9 693 693 70, on va prendre une dernière question concernant de près ou de loin la Coupe du Monde de football. Victorien, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Cotonou, au Bénin. Nous vous écoutons avec Alejandro Valente.
Oui, effectivement. Les défenseurs brésiliens Thiago Silva et David Luiz doivent arriver bientôt au Paris Saint-Germain. Nous savons tous que ces deux joueurs ont fait une piètre prestation lors du Mondial. Que compte faire le Paris Saint-Germain face à cette défense composée de David Luiz et Thiago Silva?
Deux joueurs qui incarnent, Alejandro Valente, le fiasco de la Seleção. Ils sont attendus dans les prochaines semaines, en tout cas avant le mois d'août, à Paris. Ils vont jouer au PSG. Quand on voit le chèque que le PSG a fait pour avoir David Luiz la saison prochaine au PSG, est-ce qu'ils s'en mordent les doigts aujourd'hui à la direction du Paris Saint-Germain?
Je crois pas. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, peut-être qu'il paierait un peu moins cher David Luiz. Thiago Silva était
c'est
déjà
combien, 55 millions d'euros.
Voilà, exactement. Donc, cela dit, ces deux défenseurs qui ont quand même un parcours important derrière eux, le naufrage au Brésil de l'équipe brésilienne était un naufrage collectif et David Luiz et Thiago Silva ont été plutôt bon dans l'ensemble, même si lors du match contre l'Allemagne et même contre les Pays-Bas, David Luiz n'a pas été très, très brillant.
Ce sont deux défenseurs.
Ils vont travailler avec un autre entraîneur, avec une autre équipe, et ils vont être totalement remotivés par l'idée de, justement de se racheter dans leur club. A priori, le PSG n'a pas communiqué en la matière, mais je ne pense pas qu'il soit particulièrement inquiet.
Donc Laurent Blanc n'est pas inquiet?
Je crois pas.
Nous,
à moins que les joueurs aient été atteints psychologiquement, mais ça paraît pas être le cas. D'ailleurs, Thiago Silva n'a même pas participé au match contre l'Allemagne.
Ouais. Gary Lineker, qui est un ancien international anglais, a tweeté comme beaucoup de personnalités. Et dans un tweet, il dit « Je suis désolé pour le PSG, mais David Luiz n'a jamais été défenseur et ne le sera jamais. »
Bah, ça, c'est l'avis, son point de vue, hein. Ça, c'est l'avis de son ancien entraîneur José Mourinho, qui d'ailleurs le plaçait plutôt en milieu défensif et qui a refusé de le faire jouer comme défenseur central. Alors on verra à l'usage comment ça se passe au PSG. Et le PSG, évidemment, pensait avoir acheté la défense centrale des futurs champions
du
monde.
La meilleure défense centrale au monde. Ouais.
Cela dit, c'est deux joueurs qui peuvent encore offrir des belles choses et on devra les juger à partir des faits et de leur comportement au PSG et pas par ce qui s'est passé au Brésil.
Deux joueurs qui coûtent au Paris Saint-Germain la bagatelle de 100 millions d'euros. Hein,
à environ, oui.
Voilà. Merci beaucoup Alejandro Valente. On va peut-être vous retrouver d'ici la fin de la semaine. On a d'autres questions, je crois. Me dit Camille. Donc peut-être. Après,
donc je ne peux pas partir en vacances.
Après, on vous laissera tranquille. En tout cas, vos camarades de Radio Foot International, eux, sont déjà en vacances. Des vacances évidemment bien méritées. Et on les retrouvera à partir du 11 août avec évidemment le grand retour d'Annie Gasnier dans les studios parisiens bientôt.
Et de la Ligue 1.
Et de la Ligue 1, évidemment, pour les passionnés, les amoureux du football. À bientôt, Alejandro. 10h22 à Paris, 33 9 693 693 70. Ce sont vos questions à la rédaction. Plusieurs questions concernant les FDLR, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda. C'est un mouvement rebelle qui est stationné dans l'est de la République démocratique du Congo, ce qui crée des frictions, évidemment, et plus que des frictions avec le Rwanda. Beaucoup de questions. Après une dernière actualité. Bonjour Jean-Hilaire. Alors peut-être avant, non, peut-être, oh, je me trompe, si, peut-être, Jean-Hilaire. Oui, c'est bien ça. Bonjour Jean-Hilaire.
Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Nous vous écoutons.
Oui, oui, alors moi j'avais une question à poser à la rédaction de la RFI. Pourquoi les FDLR bénéficient de 6 mois pour leur désarmement? Est-ce que ces 6 mois-là est humblement suffisant? Et la deuxième question, comment concrètement sur le terrain, comment ce désarmement va se dérouler? Voilà un peu les deux questions que
les
j'avais.
Les deux
à
questions avec un réseau téléphone qui n'est pas très bon avec Kinshasa. J'espère tout à l'heure pour l'émission que les réseaux seront nettement mieux. Bonjour Sonia Rollet du Service Afrique.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre Sonia. FDLR, je le disais juste pour replanter le décor pour tous ceux qui ne suivent pas l'actualité de la RDC. Ce sont donc des rebelles Hutu rwandais qui sont stationnés dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est quoi? C'est un mouvement opposé au pouvoir à Kigali?
Oui, c'est un mouvement opposé au pouvoir à Kigali, mais qui surtout sévit dans l'est du Congo. C'est surtout puisqu'ils sont là depuis 1994, hein, puisque c'est un mouvement qui s'est complètement transformé. Alors vous vous souvenez bien sûr qu'il y a eu un génocide au Rwanda en 1994 et des populations ont fui dans la foulée de ce génocide, ont fui face à l'avancée du FPR. Parmi ces populations-là, il y avait les ex-FAR, donc l'armée rwandaise d'avant 1994, qui est accusée par Kigali d'avoir participé au génocide, et puis les miliciens aussi du génocide, les miliciens internationaux. Kalamwe. Et ce mouvement s'est peu à peu transformé pour devenir les FDLR, donc c'est la dernière appellation Caprice Mouvement, et qui est toujours accusé par Kigali d'avoir participé au génocide, même si on sait aujourd'hui, ou en tout cas il y a une liste qui a été donnée par le Rwanda à l'ONU, qui dit qu'il y a à peu près une dizaine en tout cas de personnalités importantes qui seraient dans ce mouvement, qui sont accusées de génocide.
Alors les pays d'Afrique centrale ont récemment donné 6 mois à ces rebelles pour désarmer. Notre auditeur Jean-Hilaire estime que c'est un délai trop long.
Ah, alors ça dépend complètement des points de vue. Il y a effectivement donc c'était un sommet qui réunissait les ministres des Grands Lacs et de l'Afrique australe. Et c'est important. C'était vraiment un sommet conjoint. Il y avait des positions qui étaient totalement différentes. Il y avait deux positions, en fait, dans ce sommet. Il y avait, non, il faut pas leur donner trop de temps, puisqu'ils en ont déjà eu beaucoup. Il y avait au moins le Rwanda et l'Angola qui étaient favorables à un délai, disons, de 3 mois maximum, puisqu'ils ont offert la possibilité où ils ont dit qu'ils allaient désarmer. Mais ils l'ont dit depuis décembre, déjà. Et il y a un peu moins de 200 personnes, 200 combattants qui ont désarmé, qui sont
sur un peu moins de 2000, hein.
Un peu moins de 2000, ça dépend des chiffres, en fait. On a vraiment un chiffre de 1800 qui circule d'un côté de la frontière, côté congolais, donc qui vient de l'ONU et du gouvernement congolais. Et puis le Rwanda, lui, parle de 3600 et dit que les recrutements continuent. D'ailleurs, le groupe d'experts parle aussi de recrutements qui continuent. Donc voilà, donc il y a 3 mois, c'est bien suffisant parce qu'on leur a déjà laissé suffisamment de temps. Et puis il y a la position de 6 mois, il faut leur laisser plus de temps parce que ça prend du temps d'organiser un désarmement. Et c'est vrai que du coup, ce sommet-là a choisi une solution entre les deux, c'est d'accord, ils ont 6 mois, mais on va faire un bilan au bout de 3 mois et voir s'ils sont vraiment sérieux sur leurs intentions, parce que c'est ça qui est le problème.
Et il y a un processus, justement, pour ce désarmement.
Oui, il y a un processus. Alors, il y a le processus déjà classique, et le processus que le Rwanda voudrait voir se poursuivre, puisqu'il y a déjà beaucoup, finalement, de FDLR qui ont désarmé par ce moyen-là, et qui est, ils se rendent à la MONUSCO, et puis ils sont désarmés.
Donc,
et
ils se rendent aux Nations Unies.
Voilà. Et ils sont ramenés, ceux qu'ils choisissent, en tout cas, vont être ramenés au Rwanda. Et puis pour ceux qui ne le souhaitent pas, à ce moment-là, il y a un autre processus qui se met en place, qui serait de les mettre dans un premier temps à Kisangani, dans un centre du bataillon tactique, et ensuite de les mettre en Équateur, dans la province de l'Équateur. Donc ça sera encore transitoire. Et puis ensuite, voir s'il faut leur trouver un pays d'accueil. En fait, tout est envisagé.
Une autre question, Sonia, sur ce dossier. Bonjour, Gabriel Eloge.
Bonjour, Juan Gomez. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
On vous écoute, vous nous appelez de Lubumbashi, allez-y.
Oui, à propos justement de rebelles FDLR, que risque-t-il au terme de ce moratoire de 6 mois?
Alors, que risque-t-il s'il ne respecte pas, évidemment, l'engagement de rendre volontairement les armes, Sonia Rollet?
Eh bien, il risque de se retrouver face, ou en tout cas, c'est ce à quoi l'armée congolaise, enfin le gouvernement congolais s'est engagé, ainsi que la MONUSCO, face à des opérations militaires. On en parle depuis le début de l'année, ça devait être 2014, ça devait être l'année où il devait y avoir des opérations conjointes entre l'armée congolaise, avec l'armée congolaise et la brigade d'intervention de la MONUSCO. Là, évidemment, d'ici 6 mois, ça risque d'être difficile, puisque parmi les signataires donc de ce moratoire de 6 mois, il y a les pays de la SADC et dans la brigade d'intervention de la MONUSCO, même si l'ONU n'était pas engagée dans ce processus, puisque c'était vraiment un processus ou une décision prise par des organisations régionales, ça engage tout de même un petit peu l'ONU, puisque les troupes qui sont dans la brigade d'intervention de l'ONU sont des troupes de la SADC, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Malawi, ce sont des pays qui ont signé ce moratoire de 6 mois, donc voilà, a priori, il va y avoir une période qui s'ouvre de 3, peut-être 6 mois, où il n'y aura pas d'opération contre les FDLR, mais au-delà de ça, il n'y aura plus d'excuses, c'est ce que disent en tout cas les membres de la communauté internationale et puis surtout dans la région.
Donc on peut s'attendre à une opération militaire si la parole donnée des FDLR n'est pas respectée. Sonia Rollet, merci beaucoup, c'est un dossier complexe, mais c'est important d'avoir des repères, et on comprend bien évidemment que vous nous appeliez pour mieux comprendre ce dossier. À bientôt Sonia. Gabriel Eloge, merci à vous. Vous nous appeliez de Lubumbashi dans l'est de la RDC. Dans un instant maintenant, le point complet sur l'actualité, et dans 10 minutes, nous parlerons ensemble, et vos témoignages sont nombreux, sur ces tensions entre les deux Congos, justement, le Congo Kinshasa, le Congo Brazzaville, avec en toile de fond le départ massif de milliers de Congolais de la RDC. Voilà, on en parle dans 10 minutes.
Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.